Yacine Mobilet.
Bonjour, c'est Mathieu Clarkin, capitaine de l'UBB. Toute l'info rugby, c'est dans la mêlée de lundi, jusqu'à 19h.
C'est parti, 18h12. Bonsoir Yves Maug.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Il y a les ballons qui arrivent.
On les fait tourner.
On signale donc tout de suite. Vous avez cassé les ordinateurs.
Attention.
En plus.
Ouais.
Qu'on va faire gagner 3 ballons tout à l'heure. Mmh. Également pour tous ceux qui ont participé samedi avant le match sur le parvis du Matmut Atlantique.
Il y avait le stand France Bleu, il y avait
exactement.
L'urne.
Tous ceux qui sont venus déposer leur petit bulletin, eh bien, sont susceptibles de gagner donc ces ballons et éventuellement le maillot dédicacé par les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles.
Et on dit tirage au sort avec une main innocente dans ce studio aux alentours.
On va la trouver. Hein.
Ouais, mais j'ai une idée. 18h20 pour le tirage au sort, maillot, ballon tout à l'heure.
Allez, dans cette mêlée du lundi, on va revenir sur la victoire contre le Stade français qui laisse l'UBB dans la course à la phase finale du top 14. L'Union a mis un terme à sa série de mauvais résultats, mais elle s'est montrée moins fringante que ses adversaires directs Toulouse et Castres ce week-end. Faut-il être rassuré par cette victoire contre le Stade français? Faut-il s'inquiéter de la deuxième mi-temps plutôt ratée de l'UBB? On va en parler longuement. On basculera ensuite sur le déplacement à Grenoble dès vendredi. L'Union a quasiment l'obligation de s'imposer dans les Alpes pour rester dans l'allure. On va s'intéresser aussi ce soir en fin d'émission au club de fédéral. Les phases finales sont lancées pour Langon, Saint-Médard-en-Jal ou le RC Bassin d'Arcachon. On fera un premier point avec nous dans ce studio ce soir. Un plateau composé uniquement, une fois n'est pas coutume, de journalistes. D'abord Hamid Imakouken du journal L'Équipe. Bonsoir Hamid.
Bonsoir.
Nicolas Le Gardien du journal Sud-Ouest. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Et Arnaud Carré de France Bleu Gironde. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir.
Et vous de l'autre côté du poste, vous commentez évidemment l'actu rugby, l'actu de l'UBB au 05 56 19 10 10.
France Bleu Gironde, radio officielle de l'Union Bordeaux-Bègles.
Et on revient sur la victoire de l'UBB face au Stade français samedi.
Oui, victoire 35-25 au Matmut Atlantique. Victoire qui a mis fin à la série de défaites de l'Union qui accroche le wagon, donc en vue de la qualification pour les phases finales en restant 7e à 1 point de Castres et à 4 de Toulouse. Dans ce match, on aura vu une Union à deux visages, séduisante et en première période, puis totalement hors sujet pendant 20 minutes en deuxième mi-temps. Alors, que faut-il retenir, messieurs? Est-ce qu'on garde le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Je vous pose la question. Hamid Imakouken.
Je crois qu'il faut évidemment retenir le verre à moitié plein. Hein. La première période, trois essais, avec un jeu quand même... Retrouver, ça signifierait que c'était le jeu qu'ils faisaient avant, mais avec beaucoup de bonnes choses au plan offensif, hein, avec des mouvements... déjà des avancées des avants qui les ont mis... dans le sens
ouais, une conquête efficace qui n'était pas forcément le cas les
voilà
les
des avants qui ont avancé, qui ont permis des libérations rapides et derrière pas mal de beaux mouvements avec cette la façon de se créer les espaces et surtout de les utiliser derrière.
Alors positive attitude pour Hamid Imakouken. Nicolas Le Gardien.
Même chose. Je pense que vu dans quel état ils sont sortis du match de La Rochelle où il y avait quand même beaucoup de doutes dans les têtes avec un match qui avait été quand même au-delà de la défaite. Ils n'étaient pas très passé loin de la victoire, mais qui avait été assez pauvre sur le jeu, avec peu de choses, avec peu d'enchaînement. Ça avait été un peu pareil contre le Racing. J'ai regardé un peu les stats. Je crois qu'ils ont fait presque le double de passes que face au Racing. Donc après c'est pas faire des passes pour faire des passes. Mais donc là ils se sont rassurés parce que c'est une équipe. Il y a beaucoup de joueurs. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'avancer. Ils ont besoin de se trouver. Et c'est vrai qu'ils avaient vraiment besoin de ça. Donc je pense qu'il faut sortir d'abord de ce match effectivement ce côté positif qui redémarre un peu une dynamique dont l'équipe avait besoin, quoi.
Arnaud Carré.
Oui, ben c'est au moins une mi-temps qui leur permet de relancer quelque chose sur des choses qu'ils ont décidées au cours des longues conversations qu'ils ont eues après La Rochelle. Donc c'était plutôt intéressant. On était avec Nicolas Decamp au commentaire qui lui a beaucoup insisté sur la qualité des nettoyages et des déblayages en première période qui ont permis justement en plus avec un joueur comme Agnès Adams d'éjecter le ballon très rapidement et la défense du Stade français était vite dépassée. Alors après, on pourra dire est-ce que pendant 40 minutes, le Stade français était encore dans le TGV qui l'amenait à Bordeaux ou est-ce que c'est l'UBB qui a réussi à très rapidement faire sauter le verrou? En tout cas, il y a au moins cette base-là sur laquelle s'appuyer pour espérer encore la qualification.
Pour autant, l'équipe a un peu perdu le fil. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ça? Nicolas?
Il y a plusieurs explications. Il y a un ou deux ballons perdus en début de deuxième mi-temps, alors qu'ils ont le ballon, qui finalement remettent le Stade français dans le bon sens. Et après, du coup, le Stade français marque une fois. Et après, la dynamique s'inverse. Il y a le doute dans les têtes. Donc ça fait partie. Il y a, je pense, même si les joueurs veulent pas mettre ça en avant, il y a un petit coup physique quand même, parce que la première demi-heure, quand même, ils ont quand même mis énormément d'intensité, énormément de rythme. Et je pense qu'il y avait certains joueurs qui revenaient, notamment certains qui revenaient de blessures, qui ont eu un coup de moins bien. Il y a effectivement la charnière aussi qui, à ce moment-là, on a senti quand même Heini qui a fait Adams qui a fait une première mi-temps quand même de très haut niveau. Et on a senti en deuxième mi-temps que il perdait un peu en lucidité, il allait 1 ou 2 km/h moins vite sur ses courses. Donc tout ça fait qu'il y a eu un coup de pied, je pense à un coup de pied direct en touche aussi, qui sont remis sous pression. Et à ce moment-là, effectivement, ils ont un peu paniqué. Et puis bon, finalement, la petite différence quand même avec cet hiver, c'est que cet hiver ils tenaient bien sur leur temps faible. Et là, ils reprennent ce qui avait été un peu le cas les saisons précédentes, c'est-à-dire qu'ils prennent des points par rafale sur leur temps faible, ce qu'ils ne faisaient plus cet hiver. C'est un peu le point négatif. Ils ont du mal à tenir sous la pression.
Il faut aussi accorder le mérite au Stade français d'avoir su profiter des temps faibles bordelais avec des vrais talents comme Parissé, comme Serge Parissé, comme Vaïséa, qui est passé du centre à l'aile après leur organisation de leur ligne d'attaque. Et voilà
quoi. Il y avait un petit banc aussi quand même, parce qu'il y avait quand même Slimani, Danti, oui, plus voilà, Sonson, entre d'autres, pas mal quand même.
Effectivement, donc quand je parlais de talent, c'est un vrai gros effectif en face. Ouais. Et le Stade français, après, comme Gonzalo Queseda l'a concédé à la conférence de presse, ça a été une mi-temps où le ton est monté, parce qu'ils étaient très mécontents de l'engagement défensif de certains joueurs. Et il y a certains joueurs qui, effectivement, ont levé le curseur.
Arnaud Carré, il n'empêche qu'à la mi-temps, il y a beaucoup de monde dans le stade qui se disait on est parti pour le bonus. Est-ce que ce bonus, il risque pas de manquer quand même? Parce que même si l'équipe se remet dans le... Il reste plus beaucoup de matchs, il n'y a plus tant de points à prendre que ça. Ça peut se jouer à peu de choses près. Hein.
Toutes les occasions de prendre des points supplémentaires, faut les saisir. Après, on se dit aussi qu'à 25 partout, s'il n'y a pas cette réaction d'orgueil, ça peut faire match nul et ça peut faire 2 points, voire pire. Et là, on parle même plus de, top 6. Faut souligner. Bon, il y a une grosse difficulté. C'est dur de trouver des explications. À ressortir le ballon en deuxième mi-temps, alors qu'il l'avait fait plutôt correctement en première. Et après, il y a quand même cette réaction.
On parle de réaction d'orgueil, mais c'est aussi une réaction dans le jeu, parce que finalement, c'est le premier lancement vraiment propre de la deuxième mi-temps. Et à nouveau, ils franchissent. C'est-à-dire que pratiquement sur tous les lancements, ils ont mis le Stade français en difficulté, les lancements propres dans le coin adverse. Donc ça, c'est quand même super positif au-delà du côté caractère, etc. C'est que dans le jeu, ça veut dire qu'offensivement, il y avait vraiment quelque chose.
Ils sont restés pendant 20 minutes, dans leurs 35 mètres, sans être capable une seule fois d'en sortir proprement, ce que Nicolas disait, ce qu'ils étaient capables de faire au pied il y a encore quelques semaines.
Et effectivement, Pierre Bernard leur a apporté ça quand il est rentré. De ce point de vue-là, le coaching a été payant, parce que le jeu au pied long de dégagement de Pierre Bernard.
Soulager
l'équipe.
C'est la mêlée du lundi, on marque le premier break. Ouais. Et attention, tiens, on va passer Arnaud Carré. Regardez, dans cette poche, plus de 600 bulletins, vous avez été très nombreux à glisser votre... Non, prenez le...
Un ballon.
Moi, je pensais que c'est Hamid qui avait tiré... La main innocente d'Hamid qui va tirer.
Et un concours d'innocents. Avant, vous jurez de dire toute la vérité et de bien lire le nom qu'il y a sur le papier.
Je jure. Alors, qui remporte le maillot dédicacé par l'équipe de l'UBB et les 3 ballons de rugby ce soir d'un coup? On va faire ça comme ça? Si. Non? On fait 3-4 vainqueurs,
c'est mieux, non?
Vous êtes sûr?
Alors on fait comme ça. Ça fait plaisir à 4 personnes.
Alors on démarre, pour le maillot.
Le nom écrit sur le bulletin, c'est Michel Delors.
Michel Delors. On va tenter de... Donnez-moi le papier, on va tenter de joindre Michel Delors. Et puis on va tirer au sort les 3 gagnants des ballons que vous allez pouvoir donc remporter. Maintenant, vous nous donnez les noms dans un instant, juste après une petite page de pub.
Experts.
Au sein d'une famille, les secrets peuvent être pesants. Comment libérer la parole? Quelles conséquences ces secrets et non-dits peuvent-ils avoir? Philippe Thédot est pédopsychiatre. Il répond à toutes vos questions.
Les experts avec Rodolphe Martinez. Demain, dès 9h. Où sont tes toilettes, s'il te plaît?
Alors, tu passes le ficus, tu tournes à droite après le yucca, tu longes les plantes en pot, tu fais attention au cactus. Et c'est au bout du couloir, à côté de la lavande.
Ah, ok.
Jusqu'au 29 mai, c'est les semaines vertes chez Ikea. Faites le plein de plantes d'intérieur et d'extérieur, avec par exemple 3 plantes et leurs pots de la gamme succulente pour 4,99€ seulement, dans la limite des stocks disponibles. Ikea. France B.
Vous êtes auteur, compositeur, interprète? Tentez votre chance au concours de chansons La Truffe de Périgueux, Trophée France Bleu. Gagnez votre place en finale le vendredi 26 août sur la scène du parc Gamançon et en direct sur France Bleu.
France Bleu.
Pour participer, inscrivez-vous dès maintenant et jusqu'au 3 juin sur francebleu.fr.
France Bleu Midi Ensemble, Daniela Lombroso.
Ils vous font rire, vous les aimez au cinéma, au théâtre, ils font l'actu de la musique. Tous vos artistes favoris se retrouvent à la table de France Bleu Midi Ensemble. Avec eux, Thierry Garcia et ses imitations de stars, les actus télé de Patrice Gascoigne et les découvertes musicales d'Élodie Suigo. C'est France Bleu Midi Ensemble, c'est votre rendez-vous bonne humeur de la mi-journée.
France Bleu Midi Ensemble, demain à midi.
Réagissez au 05 56 19 10 10 et gagnez vos invitations pour le prochain match de l'UBB au stade Chaban-Delmas.
Et gagnez surtout le maillot dédicacé par les joueurs de l'UBB dans la mêlée ce soir. Hamid Imakouken, pardon, du journal L'Équipe, Nicolas Le Gardien pour Sud-Ouest, Arnaud Carré et Yves Mauque, France Bleu Gironde. Et il était au match, Michel. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Félicitations, vous avez glissé votre bulletin dans l'urne.
Oui.
Sur le stand de France Bleu juste avant le match. Et vous remportez le maillot dédicacé par les joueurs de l'UBB.
Et ben voilà.
Et ben voilà. Elle est belle la vie. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des joueurs de l'UBB samedi face au Stade Français?
C'était très très beau.
C'était beau.
Oui, oui, oui.
Pas les mêmes. Vous n'avez pas les mêmes réserves que l'équipe de la mêlée ce soir sur la seconde mi-temps, donc.
Oh non, j'ai trouvé que c'était beau dans l'ensemble. Voilà, quand même.
Seule la victoire compte. Félicitations.
Et 7 essais quand même. Quand on regarde le match, c'est plutôt sympa.
C'était du beau sport. Quoi.
Bon, super. Voilà. Et vous gagnez ce magnifique maillot signé par toute l'équipe, les joueurs de l'UBB qui vous l'ont dédicacé. Il est pour vous. Voilà. Bravo, Michel. Bonne soirée, bonne mêlée du lundi. Et je vous dis à bientôt. Et bravo.
Pour la taille.
Pardon?
Pour
la taille. Ah, de toute façon, c'est taille unique. Il est sous un cadre magnifique. Avec tous les logos du club. Mais vous pouvez le sortir du cadre et le porter si vous en avez envie.
D'accord.
Et bravo, merci. Bravo, Michel. Et félicitations à Philippe Briand, à Ramona Rattel, je vous lis les longs, et puis à Francis Giraud qui remporte chacun un ballon de rugby. Et il y aura d'autres maillots dédicacés, d'autres ballons, d'autres cadeaux à gagner. Évidemment, dans les prochaines mêlées au 05 56 19 10 10. Bravo à tous.
Allez, on va s'arrêter sur une stratégie de communication, on sait pas, on va en discuter. En tout cas, on va parler de l'ambiance à l'UBB, du bluff ou non, alors que l'équipe est lancée dans cette dernière ligne droite. Raphaël Ibanez, samedi soir, s'est plaint du traitement réservé par les journalistes à son équipe après la rencontre. Donc, il faisait référence à un sujet qui est paru dans le journal Midi Olympique vendredi. Et écoutez, le manager de l'UBB effectue une sortie assez particulière en conférence de presse d'après-match.
Je le constate, après ces trois semaines vécues en difficulté avec l'équipe, vous avez aussi, pour la plupart d'entre vous, une grande connaissance de ce qui se passe en interne, parfois même une meilleure connaissance que moi. Je pense que dans les semaines à venir, je vais vous laisser la parole. Voilà. Vous m'entendrez peut-être un peu moins jusqu'à la fin de la saison. On est en vie. Voilà, l'équipe, elle vit surtout. L'équipe, elle vit. Et concernant les projections, encore une fois, les possibilités, les suppositions, ben, vous ferez votre propre idée. Et puis, si vous en avez aussi des idées à mon sujet, notamment concernant mon avenir aussi, faites-le-moi savoir. Hein. Et puis, me concernant aussi, concernant le statut, l'équilibre de l'équipe, ce qui se passe en interne, si vous avez aussi des idées me concernant, et concernant la vie du manager, et si on reste sur du négatif, lâchez-vous, quoi. Mais allez-y franchement, d'accord ? Parce que ça me plaît. Quelque part, ça me plaît.
Bon, alors c'est quoi ça, Arnaud Carré ? C'est une stratégie de communication de Raphaël Ibanez qui a été énervé par ce sujet dans Midi Olympique qui évoquait pêle-mêle, l'absence de Vincent Etcheto, l'arrivée de Jacques Brunel, éventuellement son avenir personnel. Il a pas apprécié. Il cherche à utiliser ça pour booster un petit peu la fin de saison.
48 heures après, je me demande encore. c'est vrai que on a eu du mal à comprendre. D'ailleurs, parce que c'est arrivé comme ça, la conversation, je suis bien placé pour en parler, parce que c'est quand je lui ai demandé...
C'est vous qui avez allumé la mèche ?
Non, mais j'ai juste demandé pourquoi le temps faible de l'UBB avait été aussi faible. Et puis après c'est parti, mais j'ai vraiment du mal à me faire une idée du pourquoi, alors que... que ce qu'il a lu lui les chiffonner, ça je peux tout à fait le comprendre. Après, ce qui a été dit dans le écrit dans chez nos confrères de Midi Olympique, c'est entre guillemets ce que des journalistes disent, et je parle des journalistes, peuvent dire en général sur la vie d'un groupe sportivement en difficulté, mais sans véritable information sur le contenu. Ouais, c'est-à-dire ouais. Un club qui perd, ça va moins bien, et on se dit pourquoi ça va moins bien, et on peut avancer des explications. Après, est-ce que je veux pas casser du sucre sur le dos de mes collègues, est-ce que les gens qui ont écrit ces choses-là avaient les réponses aux questions, c'est à eux ouais. qu'il faudrait demander.
Mais est-ce que, plus largement que ça, est-ce que ça montre une certaine nervosité au sein de l'Union Bordeaux-Bègles dans cette dernière ligne droite, Nicolas Le Gardien?
À ce niveau-là, disons qu'il y a eu une nervosité, il y a eu une tension après le match contre La Rochelle, après le Racing, après le match La Rochelle. Là, on sentait, il y a vraiment eu une tension, il y avait des questions, il y avait des choses. Et c'est vrai que le club a bien rebasculé à partir de ce fameux lundi où ils ont tout remis à plat avec le staff, avec les joueurs, où tout le monde a pu s'exprimer. Ils sont rebasculés finalement sur quelque chose de positif en se disant bon, comment on finit la saison, avec quel objectif, de quelle façon dans le jeu, de quelle façon ensemble, ils sont rebasculés sur du positif. Donc c'est vrai que sur les 15 jours, finalement, c'est reparti sur des positifs. Après, il y a eu la tension après les trois défaites, c'est une évidence. Ouais. Mais après, ils étaient repartis.
Est-ce qu'il peut expliquer l'énervement, c'est-à-dire qu'il a l'impression de s'être pris un petit tacle par derrière alors que la dynamique était repartie.
Cassure monstrueuse, il y a des joueurs qui jouent pas, ouais. qui font la tête comme ça existe dans tous les clubs à cette période. Mais il n'y a pas de cassure définitive. Donc c'est vrai que c'est reparti sur du positif. Après, c'est vrai qu'il y a eu ce dossier. Après, le reste, ça lui appartient. Je veux dire, c'est lui qui peut s'exprimer. On va pas s'exprimer à sa place. Quoi.
Moi, je suis juste surpris de la réaction de Raphaël Ibanez, que je connais très bien parce que je l'ai vu débuter en équipe de France. Je l'ai accompagné pendant ses 10-12 ans de carrière internationale. Il a 98 sélections. Il a, plus d'une quarantaine de capitanats. Mais ça prouve à quel point ça l'a touché profondément ce dossier. Et voilà, bon. Après, il y a des choses qui ont été écrites quand Arnaud dit c'est la vie de, enfin c'est la vie de certains journalistes. Mais je pense qu'il y a des choses fausses qui ont été écrites.
Il y a des choses qui
quand
pas
on parle
oui,
quand on parle d'état de crise, faut arrêter. État de crise, il n'y a pas du tout d'état de crise à l'UBB. C'est pas du tout l'ambiance que nous on peut ressentir
au quotidien.
Au quotidien, nous on est tous les trois autour de cette table qui sommes à Moga. C'est pas vrai quoi. Après quand on parle de regretter Vincent Etcheto, que ça jouait mieux avant. Peut-être certains joueurs, peut-être certains supporters, mais c'est facile de dire ça. Mais aujourd'hui, factuellement, comme disait Nico, l'UBB a perdu moins de matchs cette saison au même stade que la saison dernière et a gagné plus. Elle a fait deux matchs nuls à l'extérieur. Elle a gagné trois fois à l'extérieur. Voilà, il y a des choses qui sont mieux cette année aussi. Donc il faut, on peut pas partager tout ce qui a été écrit. Voilà.
On continue à parler de ce qui se passe du côté de l'Union Bordeaux-Bègles et on se projettera.
Aussi, hein.
Oui, et puis du côté des autres clubs aussi, Toulouse et Castres qui carburent et qui obligent l'UBB à tenir un rythme sévère.
La mêlée du lundi qui revient dans moins de 5 minutes sur France Bleu Gironde.
On fait la route ensemble avec Murprotec Gironde, solution définitive contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
Et on va retrouver Aurélie au PC Circulation de Bordeaux Métropole avec des travaux sur le secteur du cours Maréchal Gallieni, Aurélie.
Oui, afin de créer un quai de bus, le cours du Maréchal Gallieni est en travaux entre l'avenue Jeanne d'Arc et la rue Lorgaté jusqu'à vendredi inclus. Une circulation alternée est mise en place entre 9h et 16h30, ce qui occasionne des remontées en heure de pointe à hauteur de la barrière de Pessac, ainsi que sur les boulevards du Maréchal Leclerc et Georges V. Nous vous recommandons plutôt d'emprunter la rue de Rigoulet, la rue Léo Seigna et le boulevard Georges V pour éviter ces difficultés.
Toutes les infos, trafic, circulation, travaux, francebleu.fr/Gironde, bien sûr. Attention, un accident sur le quai des Champs, rive droite vers le sud-est, juste en dessous du pont Saint-Jean. Donc quand vous repartez du quai des Champs vers Bouliac et le quai de la Souille, soyez vigilants, ça coince sur ce secteur. Quai des Champs totalement dans le rouge entre le pont de Pierre et le pont Saint-Jean, donc en direction du sud. Et puis pour les boulevards, peu d'évolution. Lyon. Des ralentissements qui se concentrent rocade ouest entre la barrière judaïque et la barrière du Médoc. Quant au trafic sur la rocade, ça n'a pas beaucoup évolué. Ça coince toujours rocade sud de la jonction de l'autoroute de Bayonne. La sortie 15 Pessac-Lacrabette jusqu'au pont François Mitterrand à Bègles. Sens intérieur, des ralentissements rocade ouest depuis la sortie numéro 8. Le Haillon et Zine jusqu'au secteur de Bordeaux-Lac avec toujours ce véhicule. Visiblement un véhicule en panne à la fin du boulevard Aliénor d'Aquitaine qui se retrouve également saturé en direction de la rocade bordelaise quand vous repartez vers l'échangeur numéro 4 et le secteur du pont d'Aquitaine. Pont d'Aquitaine qui est pour l'instant, ça s'est bien amélioré, plutôt dégagé dans les deux sens de circulation. Bonne route.
France Bleu Gironde, soyez solidaires. Vos infos routes 05 56 19 10 10.
Police à 18h35, Walking on the Moon, c'est la mêlée jusqu'à 19h ce soir.
La mêlée du lundi sur France Bleu Gironde passe au crible l'actualité du rugby et de l'Union Bordeaux-Bègles. France Bleu Gironde.
Avec le correspondant du journal L'Équipe, Amidi Makouken, Nicolas Le Gardien du journal Sud-Ouest, Arnaud Carré et Yves Maugue pour France Bleu Gironde. On va regarder ce qui s'est passé donc face aux adversaires directs de l'UBB, Toulouse et Castres, qui jouaient également ce week-end.
Oui, effectivement, on suit de près le parcours de ces deux formations à la lutte pour la 5e et la 6e place dans ce top 14 qualificatif. Donc pour les phases finales, Toulouse vainqueur à Toulon, c'est forcément une très bonne opération, une énorme opération pour les Toulousains. Ça veut dire qu'il n'y a plus, comme le dit Christophe Urios, que deux candidats pour la 6e place ? Amidi Makouken.
Oui, je pense, oui, parce que Toulouse a quand même frappé un grand coup. Hein. Ils avaient déjà fait... Moi, j'étais au match contre le Racing il y a 3 semaines de ça, ouais. À Toulouse. Ils avaient déjà fait des bonnes choses offensivement. On sent quand même qu'ils ont un potentiel très élevé, comme tout le monde le sait. Là, le match à Toulon, c'était quand même défensivement, c'était une performance impressionnante, ce qu'ils ont fait, de résister aux assauts de Toulon, comme ça, de que la digue ne craque pas. Et effectivement, je pense que Toulouse, qui va quand même jouer Clermont, encore un match difficile, mais Toulouse, oui, je pense que Toulouse a assuré sa place dans les 6. Après, effectivement, pour revenir à votre question, oui, je partage l'opinion de Christophe Urios, ça sera effectivement ou Castres ou Bordeaux, quoi.
Par expérience, faut quand même se méfier.
Nicolas Le Gardien.
Par expérience, faut quand même se méfier. Parce que ce qui m'a impressionné, c'est un bien grand mot, mais c'est les victoires de Agen et d'Oyonnax. C'est-à-dire que c'est des équipes qui finalement, qu'on pourrait imaginer démobilisées, mais bon, ça pourrait se comprendre. Et elles sont toujours là. Et Toulouse va à Oyonnax, notamment. Toulouse reçoit Clermont. Et s'ils se voient qualifiés trop tôt, ils peuvent peut-être encore avoir des mauvaises surprises. Donc, j'attendrai avant de les mettre. Alors, évidemment, ils ont un ballotage très favorable. Mais moi, je dis attention parce qu'ils vont peut-être pas les gagner à Oyonnax. Si Oyonnax doit cibler un match sur la fin de saison, ça va être celui-là. Ils reçoivent Clermont, oui, faut voir dans quel état vient Clermont.
Imaginons qu'Oyonnax ait gagné au Stade Français là, le week-end prochain.
Oui, en plus, ça commence à aller loin.
Mais pour revenir sur ce que dit Nicolas, je pense pas que Toulouse se voit, s'imagine qualifié.
Oui, mais pour eux, ça peut être le risque, effectivement. Parce que ces deux matchs-là, il suffit qu'ils perdent ces deux matchs-là et la pression peut vite remonter.
Allez, Castres a pris de son côté le bonus offensif contre Pau, des Castrés qui restent dans une très bonne dynamique aussi. Arnaud Carré.
Ah oui, ils ont le vent derrière, et puis le vent qui souffle fort. Ils reviennent de nulle part parce qu'ils ont jamais été très très loin, mais bon, la grosse équipe, enfin avec Montpellier,
ouais, ils sont dans l'ascenseur pour l'instant.
La grosse équipe de fin de saison, c'est eux. Hein, et c'est pour en venir à l'UBB, quand on parlait de crise, de mauvais résultats, pour moi c'est plus une crise de croissance. Sauf que l'an dernier, ils ont failli y aller, ils auraient dû y aller. On va pas revenir sur ce qui s'est passé à Ernest Vallon cette année. En dehors du Stade Français, tout le monde est là. Hein. Toutes les bonnes équipes sont là. L'UBB, c'est le 9e budget de Top 14 et risque de finir 7e. Donc ça montre aussi la densité, l'homogénéité du championnat. Et Castres, on les voit mal s'écrouler maintenant. Urios a emmené Oyonnax en phase finale l'année dernière. Il va recommencer ce sprint avec un tout autre effectif. Donc ça s'annonce très très compliqué. Il faudra vraiment un sans faute côté Gironde.
Disons que Castres va à Toulon au mauvais moment, quoi.
La mauvaise nouvelle, c'est la défaite de La Rochelle qui éloigne La Rochelle en termes d'enjeu. Et La Rochelle va à Castres dans 15 jours. Et si La Rochelle avait toujours été dans le jeu, c'était une équipe qui pouvait dans le calendrier quand même plutôt favorable, voire très favorable à Castres. C'était l'équipe qui pouvait un peu les embêter chez eux. Et du coup, là, ils vont peut-être pas y aller avec le même esprit. Et c'est vrai que du coup, ça va être très compliqué. C'est sûr qu'après, l'UBB n'a pas 40 solutions. Hein. Il faut en gagner 3 sur 4. Donc, au minimum.
Ah oui.
Mais il faut en gagner 3 sur 4.
Après, on peut aussi se retrouver dans un scénario, parce qu'on est que avec des si. On peut imaginer, par exemple,
c'est ça qui est rigolo, hein, de notre côté.
Oui, mais si tout, non, mais à contrario, si Toulon se ressaisit, pourquoi pas imaginer un Toulon UBB avec des Toulonnais qui sont, assurés d'une troisième place, assurés d'une troisième place et sans possibilité d'aller chercher une demi-finale directe et faisant tourner éventuellement avant un barrage, je sais pas.
Avec les égalités, etc. Et sans faire 3 sur 4, ça sera quand même...
Il faut battre Brive pour consolider définitivement la 7e place qui sera peut-être qualificative pour la Champions Cup. Et puis après, aller essayer d'en chercher 2 sur 3.
Et donc, il va falloir aller gagner à Grenoble vendredi soir. Donc, l'Union Bordeaux-Bègles qui va continuer sa course en espérant rester toujours dans le jeu. Est-ce que l'UBB peut tabler sur une équipe de Grenoble démobilisée? Hamidi Makouken.
Ah non, à démobiliser, non. Non, absolument pas. En
plus, ils n'ont plus rien à jouer.
Oui, ils n'ont plus rien à jouer, mais justement, c'est l'occasion dans ce money time du top 14 pour ces équipes-là de se lâcher dans un jeu débridé offensivement. En plus, Grenoble, c'est toujours des matchs agréables à la maison, hein, mine de rien. On a vu la dernière fois contre Cass, c'est souvent des matchs avec beaucoup d'essais. C'est une équipe qui propose un gros volume de jeu. Franchement, moi, je pense qu'on va assister à un beau match, hein, parce que Grenoble à la maison, de toute façon, c'est un jeu d'attaque. Et l'UBB l'a montré en première mi-temps contre Paris, qu'elle a retrouvé certaines vertus. Et de toute façon, il ne faut pas se voiler la face. Bordeaux, Nicolas parlait de 3 victoires sur 4, mais si déjà Bordeaux veut gagner un match, ne serait-ce qu'un match à l'extérieur,
c'est là.
Ça semble plus envisageable quand même qu'à Montpellier, même s'ils les prendront une semaine après la finale de Coupe d'Europe, Montpellier, qu'à Toulon. Mais voilà. Mais pour Bordeaux, là, c'est vraiment un rendez-vous crucial vendredi.
Nicolas, le gardien.
Oui, c'est évident que c'est quand on regarde le match à Montpellier derrière, le match à Toulon, ça semble le déplacement le plus accessible. C'est pas simple parce que effectivement, cette équipe de Grenoble marque beaucoup de points, est très dangereuse offensivement. L'UBB est reparti sur la volonté de pratiquer, de beaucoup jouer, d'aller chercher l'offensive, de conserver le ballon. Donc ça va être intéressant. Faudra alterner, faudra pas non plus se tromper, je pense. Mais voilà, hein, c'est un beau test, c'est un beau match, c'est plutôt excitant à jouer. Je pense que voilà, c'est money time.
Et puis Castres a réussi à le faire il y a peu de temps, donc il faut y arriver, quoi.
Il faudrait dans l'idéal y arriver. Après, c'est une terre qui n'a pas beaucoup réussi aux Girondins depuis qu'ils s'affrontent en top 14. On se souvient, enfin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qu'au match aller, Bordeaux avait quand même bien souffert, hein, face à une équipe qui a quand même des. Bon, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop de Grenoble. Ils ont des phases où on dit ah ça y est, c'est l'année, et puis une mauvaise série. Donc du coup, ils finissent toujours un peu ventre mou ou moyen. Mais ça, il y a quand même des sacrés joueurs dans cette équipe. Et puis ça joue énormément. Quoi. Donc c'est à contrer, c'est faut être capable de.
Bon, dans ce championnat, hein, où tout le monde va gagner chez tout le monde, on l'a encore vu samedi à Nice avec la victoire de Toulouse à Toulon. Bordeaux n'a pas de questions à se poser. De toute façon, en plus, Bordeaux a l'effectif pour.
Ils ont lancé une petite dynamique. On sent quelque chose dans le groupe. On sent quelque chose, quoi. Donc ils vont vraiment y aller. Ils vont vraiment y aller costaud. C'est pour ça que ce match est très important, comme celui du week-end dernier. Mais s'ils y arrivent, et puis s'ils y arrivent là, par contre, gare à eux. Sur les matchs, même à Montpellier, voilà quoi, ça peut vraiment.
C'est aussi un peu l'avantage psychologique de leur situation, c'est-à-dire qu'ils disent eux-mêmes, on est rentré déjà dans nos phases finales à nous. On sait que à chaque week-end, c'est quasi éliminatoire, quoi. C'était fini. S'ils perdent à Grenoble, ils savent que c'est presque fini. Donc ça leur permet aussi de tout lâcher sur 80 minutes sans trop se poser de questions.
Ils peuvent être sixième.
On rappelle juste l'horaire du match, donc vendredi Grenoble UBB 20h45, donc avec évidemment Arnaud Carré qui sera au commentaire seul ou avec
il y aura plein de gens dans les tribunes.
Non, mais je parlais au commentaire avec vous.
Donc
vendredi 20h45, vendredi 6 mai, le match Grenoble UBB à suivre sur France Bleu Gironde et francebleu.fr.
un mot quand même, quelle demi de mêlée vendredi soir, parce qu'on a vu Aigné Adam se sortir sonné samedi soir. Baptiste Serin, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, Arnaud, était à l'entraînement ce matin.
Oui. Adam, c'est parti chez le neurologue, j'ai vu ça dans l'équipe.
C'est ça, oui, oui. Ouais. Donc, faut savoir ce qui s'est dit. Peut-être c'était écrit ailleurs aussi, je ne sais pas, je ne voudrais pas faire.
Je ne lis que l'équipe. Non, dans le Sud-Ouest aussi. Hein.
Sans doute c'était dans le Sud-Ouest.
Oui. Et c'est sur France Bleu Gironde.
Donc c'était en début d'après-midi. C'était en début d'après-midi.
Je crois qu'on est au même endroit.
Non, mais il était allé consulter en début d'après-midi, donc je ne sais pas. On saura demain, effectivement, ce que le neurologue a dit. Et de toute façon, il faut suivre l'évolution le comportement de Baptiste Serin aux entraînements avec contact, puisqu'aujourd'hui, c'est un entraînement sans contact.
Ouais, parce qu'on rappelle qu'il est blessé aux côtes et c'est. Bah, un particulièrement long à faire en sorte qu'on puisse consolider. Et puis c'est quand même
ça fait mal.
Bah oui, puis c'est pas du patinage artistique. Ouais. Donc et le Grenoblois le savent. Ils lisent aussi l'équipe et Sud-Ouest et ils écoutent.
Voilà, et ils ont en option, il y a le demi-mêlée le Gauthier Doubrère.
Alors justement, vous avez pensé quoi de Gauthier Doubrère?
Moi j'ai bien aimé.
Grand début en top 14.
Moi j'ai trouvé que
un hoche chez les espoirs maintenant du côté de l'UBB, là plongé dans le grand bain et qu'on a vu sur l'essai décisif par exemple.
Ouais. Moi j'ai trouvé déjà que
du culot.
Oui, et ce matin, on a pu constater que Maître Taleboula avait des grands talents de coiffeur, parce qu'il avait le crâne totalement rasé, et que c'est Taleboula qui s'est chargé de le raser.
Il avait loupé un samedi soir.
Mais oui, il avait fait que la moitié du travail. Mais effectivement, il a eu une rentrée très très, très convaincante contre Paris, mais je pense que Nicolas le connaît mieux que moi, la vue avec des espoirs.
Non, mais c'est un joueur de caractère. Déjà, tout simplement, il a commencé en Fédéral 1 à 18 ans. Il a fait une saison comme titulaire à Auch, où il y a quand même une petite pression. Même en Fédéral 1, il y a quand même un public qui est présent, au milieu de vieux briscards, etc. Il a joué les phases finales de Fédéral 1 l'année dernière avec Auch. Donc c'est quelqu'un qui a pas peur de la pression, qui sait déjà un peu diriger ses avants. Donc, pour son jeune âge, il a quand même une petite expérience, un gros caractère. Après, c'est un style différent des demi-mêlées que qu'on peut connaître dans l'équipe de Top 14. Mais voilà, ça, pour au niveau du caractère entre guillemets, il est capable de tenir. Après, il y a le rythme de tenir un match entier du Top 14, les impacts, etc. Ça, c'est lui-même ne le sait pas puisque c'était ses 20 premières minutes. Mais c'est vrai qu'il a montré vraiment de bonnes choses. Surtout que sa rentrée était quand même très difficile parce qu'il prend une mêlée à 5 mètres. Après, l'essai derrière où il est pris dans le regroupement, du coup le ballon sort, il est plus là, et voilà, et derrière il repart et il fait 20 bonnes minutes, il est effectivement présent sur l'essai, donc voilà, après être titulaire, jouer tout un match, c'est encore une autre aventure, mais en termes de culot caractère, j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'il répondra présent.
Parce qu'après il apprend quand même la blessure de Lesgourgues la veille du match, donc il apprend qu'il va être sur le banc. À la mi-temps, il doit se dire, bon c'est bon, il y a 25-6, on va dérouler, et je vais rentrer 10 minutes. Non mais je vais rentrer 10 minutes, je vais me régaler, et quand il rentre, il y a le feu, quoi. Ouais. Et,
après l'importance et aussi, c'est que le staff a fait rentrer aussi, Pierre Bernard au même moment, et c'est vrai que ça a fait du bien, parce qu'il y avait du coup un 10 plus expérimenté que Simon Niquet, qui n'a pas cette expérience.
Alors, comme vous êtes très fort dans les liaisons, vous m'avez parlé de Pierre Bernard, on va en parler et on va parler, faire une petite page transfert dans quelques instants, Nicolas.
Et s'intéresser à ce qui se passe du côté des clubs de fédéral.
La question du jour, Dominique Bourdeau.
120 euros d'amende si vous n'avez pas rentré votre bac poubelle, et avec l'Euro 2016, la verbalisation pourrait s'accentuer. Michel pense qu'il y a une différence entre quartiers et Paul a une meilleure idée que l'amende.
Pourquoi ne pas faire un acte civique en donnant une heure de son temps à ramasser toutes ces saletés qui sont jetées en dehors des poubelles?
Mais il y a des quartiers favorisés aussi, comme Caudéran, Saint-Michel et Saint-Pierre, c'est nettoyé deux fois par jour. Il y a des quartiers qui sont un peu délaissés, voilà.
Tous les matins, c'est vous qui faites vivre l'actualité en direct dès 6h sur France Bleu Gironde au 05 56 19 10 10. À demain.
France Bleu partage les bonnes idées cuisine avec Marmiton Magazine. Les meilleures recettes de printemps avec les fruits et légumes de saison. Des idées pour l'apéritif et 10 desserts glacés pas comme les autres. Et toujours, plus de 100 recettes testées et approuvées par les internautes. On cuisine ensemble sur France Bleu du lundi au vendredi à 10h et dans Marmiton Magazine, disponible actuellement.
Pour en savoir plus, francebleu.fr/loisirs.
Allô, qui est en ligne?
Allô, c'est moi, je suis un auditeur, oui. Au téléphone. Je suis complètement accro au Chevalier du Fiel, je vous les écoute jour et nuit.
Mais c'est tout simple, vous allez sur francebleu.fr et vous vous abonnez au podcast.
Vous abonnez, mais c'est payant.
Mais bah absolument pas, c'est gratuit.
Mais c'est gratuit.
Et c'est illimité, vous les écoutez autant que vous voulez.
Attendez, je parle à ma femme. Tu l'as noté, ça? Tu l'as noté?
Vous aussi, abonnez-vous au podcast des Chevaliers du Fiel sur francebleu.fr et sur les plateformes de téléchargement légal.
Tous derrière l'UBB.
Avec l'Étoile, le spécialiste de l'acier et quincaillerie pour les entreprises et les professionnels. Retrouvez-nous à Bruges et sur l'étoilej.com.
C'est la mêlée du lundi avec Amidi Makouken du journal L'Équipe, Nicolas Le Gardien Sud-Ouest, Arnaud Carré France Bleu Gironde, aux côtés d'Yves Mau pour les 5 dernières minutes. Yves.
Ouais, on va dire rapidement 2-3 petits mots des transferts, parce que c'est bien maintenant en rugby, ça dure toute la saison. Donc Pierre Bernard a balancé hier sur une radio concurrente qu'il demandait à partir en fin de saison. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On pensait que c'était réglé depuis que Montpellier avait pris et avait annoncé qu'il faisait signer Botica. Finalement, c'est pas si fini que ça.
Ils ont annoncé Montpellier, je sais pas. Botica, il a signé effectivement ou c'est... Oui, d'accord.
Il me semble, hein.
Oui.
Je sais pas si c'est annoncé par le club, en tout cas c'est annoncé par toi qui est derrière Montpellier, oui.
D'accord.
Ouais. Non, mais juste pour répondre brièvement à effectivement, il a confirmé, enfin, il a annoncé ce week-end qu'il voulait partir, mais moi, ouais. Il a confirmé personnellement encore en début d'après-midi. Mais il faut rappeler quand même aux auditeurs que ce n'est pas Pierre Bernard qui décide, parce qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2017.
Ouais.
Et que de toute façon, il faudra un blanc-seing de Laurent Marty.
Aujourd'hui, lui n'a jamais dit non plus je reste. C'est-à-dire que c'est vrai que quand il y a eu cet échange Meurtri-Moed-Altrad a dit qu'il ne voulait pas verser d'indemnité, que finalement tout le monde c'était fini. Lui, il n'a jamais dit je reste. Quoi.
Donc, c'est Laurent Marty qui a dit le débat est clos.
Voilà. Après, lui, il a toujours eu, je pense, au fond de lui, cette envie de partir. Je pense que le fait d'être remplaçant ce week-end lui a mis un gros coup au moral. Après, est-ce que c'est la goutte qui l'a fait décider de prendre position publiquement comme ça? Il n'y a que lui qui peut le dire.
Bon, eh ben on va suivre le nouveau rebondissement, donc la suite du feuilleton Pierre Bernard. L'UBB qui serait intéressé par Mermoz. Alors ça, c'est pareil. C'est un joueur qui est pas en fin de contrat, Maxime Mermoz. Donc il n'y a aucune raison qu'il quitte Toulon.
Ça dépend s'il y a peut-être un mal-être ou un mal de vivre ou pour des raisons.
Bah, il joue Mermoz en plus.
Oui, mais bon, parfois il arrive que voilà, ouais, pour des raisons qu'on ignore, comme ça peut être le cas pour Pierre Bernard ou pour X ou Y dans un autre club. Voilà. De toute façon, après voilà, il faut rappeler que l'UBB cherche encore un joueur derrière, un renfort, parce que qualitativement et quantitativement, Sofiane Guitou n'a pas encore été remplacé.
Ouais.
Donc voilà, donc on peut dire qu'il y a une place de libre.
Tous les joueurs de haut niveau, je pense, qui jouent trois quarts, sont étudiés ouais, aujourd'hui par l'UBB. Donc voilà, ça fait partie des possibilités.
C'est un dans la liste. Allez, avant de conclure cette émission, j'aurais quand même qu'on dise un petit mot des phases finales de Fédéral qui ont débuté ce week-end. Fédéral 1, très compliqué, hein, puisqu'il y a une phase finale pour la montée en Pro D2 et puis une phase finale pour le titre de champion de France. Donc c'est dans celle-là que jouent les qualifiés girondins. En huitième de finale, Langon est mal parti après sa défaite à domicile contre Oloron 19-15. Saint-Médard-en-Jalle en revanche à 5 points d'avance sur Castanet après sa victoire 20-15. Et puis en Fédéral 2, le RC Bassin d'Arcachon était accroché par Gaillac en 16e de finale et ne l'emportait que 19-15. Match retour qui sera peut-être compliqué. Ils peuvent avoir des ambitions, ces clubs-là. Amine, je crois que vous étiez au match RC Bassin d'Arcachon hier.
Oui, je suis allé pour mon plaisir. Ouais.
Ouais.
Ouais, c'était un match. Il y a eu de bonnes choses de la part de l'équipe du Bassin d'Arcachon, notamment un très bel essai, très joli mouvement, peut-être initié, créé dans la saison par Eni Adams, puisqu'il collaborait dans ce club au niveau du jeu offensif, de l'étude vidéo. Mais voilà, un bon début de match, des bons mouvements, après un peu de fébrilité, de ballons tombés derrière, mais une deuxième mi-temps quand même beaucoup plus à l'avantage de Gaillac, qui est quand même une équipe solide.
Voilà, ça risque d'être compliqué. Ouais.
Ça sera compliqué, mais je pense que c'est jouable. Ça sera compliqué. Voilà.
D'accord.
Surtout qu'il faut rappeler que la qualification se joue au point terrain. Hein. C'est-à-dire que la victoire 19-15, il n'y a pas 4 points d'écart. Voilà, c'est au point terrain. Donc, Bassin d'Arcachon a marqué 4 points et Gaillac a marqué le bonus défensif. Donc, c'est 4-1 et voilà.
Ouais. Y a des possibilités de monter là, du côté du Bassin d'Arcachon ou c'est encore un peu jeune, non dans la maturité du projet?
Je crois que c'est pas un objectif, c'est pas un objectif complet entre guillemets, même s'ils veulent y arriver à terme. Après, si jamais ça se présente, je pense pas qu'ils refusent non plus. Donc une fois qu'on est engagé en phase finale, on essaie d'aller le plus loin possible. Après, s'ils le font pas cette année, je pense pas que ça soit une catastrophe pour le club. Après, il y a l'ambition d'y arriver,
Parce que s'il devait monter, enfin je pense c'est comme à l'échelon au-dessus, c'est le début des soucis financièrement. Hein, c'est quand même la
fédérale. Il y a un gros palier. Bah, on va suivre ça le week-end prochain. Donc les matchs retour à Moarno.
Oui, juste pour l'information qui vient de nous parvenir. Ouais,
c'est votre femme qui appelle pour faut gagner du pain.
C'est le forfait d'Annie Adams pour le déplacement à Grenoble.
C'est pas une bonne nouvelle.
Arrêtez une semaine.
C'est pas une bonne nouvelle. On suivra ce match donc vendredi 20h45 en direct sur France Bleu Gironde et francebleu.fr avec Arnaud.
Et on vous a mis en photo le magnifique maillot dédicacé par les joueurs de l'UBB.
C'est pas nous que l'on gardait, donc.
Non, mais j'aurais bien aimé l'avoir. Voilà, remporté par Michel de Cavanac et Villagrin. Vous le retrouvez en photo sur la page fan Facebook de France Bleu Gironde. Merci à tous. Merci Amélie Macouken. Merci Nicolas Le Gardien. Arnaud Carré, Yves Maug. C'était la mêlée du lundi. Bonne semaine. Bon rugby. À lundi prochain.
France Bleu.